Il est 13h30 sur France Inter et une femme au sein nu va surgir dans votre poste de radio. Bonjour Jean Lebrun.
Écoutez, prenez des précautions Bruno. Non, nous allons parler de l'histoire d'un tableau. Mais en effet, quel tableau ?
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La liberté guidant le peuple de Delacroix.
Quand j'étais petite fille à l'Union soviétique, ce tableau était présenté dans le bouquin d'histoire de 5e. C'était juste le message politique à l'Union soviétique. C'était pas par hasard qu'on avait choisi ce tableau parce que c'était un vrai message révolutionnaire de politique. La liberté qui guide le peuple.
C'est l'incontournable de beaucoup de manuels jusqu'en République populaire de Chine et en France. La semaine passée, voulant illustrer le débat sur le roman et le récit national, Ouest France reproduisait le tableau sur 3 colonnes avec cette légende. Il est souvent choisi comme symbole de la République française. Certes, Delacroix n'aurait pas défini ainsi sa liberté quand il la peignait après les journées de juillet 1830. Le jeune peintre, il avait alors seulement 32 ans, n'avait rien d'un aventurier. Et en matière politique, il était tout sauf un révolutionnaire. Cependant, il a haussé un événement populaire, la journée insurrectionnelle du 28 juillet, au niveau d'un mythe. Généralement, dans la peinture, seuls les rois et les empereurs avaient le droit de convoquer les mythes à leur service. Ce n'est pas seulement en appelant à renverser les trônes et les dominations que la liberté guidant le peuple renouvelle la peinture. Dans sa composition en pyramide impeccable, Delacroix bouscule aussi les codes du réalisme et de l'allégorie. Ces personnages masculins sont peints avec le souci du réalisme et en même temps dans le déni du réalisme et sa liberté au centre. C'est en même temps une femme du peuple de son époque et une déesse grecque. Chaque génération n'aurait pu investir ce tableau d'une signification politique renouvelée d'époque en époque, de pays en pays, s'il n'avait d'abord une puissance pictorale inouïe.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Dominique de Fonréau, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Heureuse conservatrice du charmant et très fréquentée maintenant musée de la Croix, qui est installé à l'ombre de Saint-Germain-des-Prés, place de Fürstenberg. Quand il était jeune, il lui est arrivé d'avoir des ateliers déjà rive gauche,
oui,
bien avant cette installation superbe
voilà, bien avant,
du Second Empire.
Bien avant, puisqu'en fait, il a un atelier déjà dans les années 1820 à l'angle de la rue Jacob et la rue Fürstenberg. Et puis, il a aussi un atelier assez longtemps qu'est Voltaire, donc juste en face du Louvre. Et c'est après seulement qu'il part rive droite, rue Notre-Dame-de-Lorette, avant de regagner en 1857 la rive gauche et la place de Fürstenberg.
Alors, formation chez Guérin, une admiration pour de grands peintres dont on se souvient toujours. Le baron Gros, on parlait il y a peu ici avec Jean-Paul Kaufmann de la bataille d'Eylau par le baron Gros.
Oui, le baron Gros, c'est un élève de David, mais ça fait partie de ces élèves de David qui s'inscrivent aussi dans un renouvellement de la peinture, et notamment de la peinture d'histoire. Et on pense à la bataille d'Eylau, on pense aussi à l'esquisse de la bataille de Nazareth, par exemple, qui est au musée des Beaux-Arts de Nantes. Et Gros marque beaucoup la génération qu'il suit, celle de Delacroix, et avant Delacroix, celle de Géricault.
Mais la bataille d'Eylau s'est organisée autour du chef. Enfin, il était bonapartiste, hein, de formation, d'origine, d'ascendance de la Croix.
De la Croix, oui, sa famille est bonapartiste. Il appartient à une famille qui a, si on peut le dire ainsi, profité de la Révolution française. Et son père sert d'abord le consulat, puis l'Empire. Son frère Henri meurt à Friedland. Et son frère Charles est aussi général. Donc, ils servent l'Empire.
Je cherche de grands tableaux qui disent encore quelque chose à nos auditeurs et qui aurait pu précéder la liberté guidant le peuple. Il y a bien évidemment le radeau de la Méduse, 1819, Géricault, qu'il admire beaucoup.
Oui, le radeau de la Méduse pour lequel il pose aussi de la croix, puisqu'on dit qu'il a posé pour être le jeune homme qui est de dos à l'avant du tableau. C'est certain que le tableau de Géricault l'impressionne profondément sous deux aspects. Le rapport entre l'histoire en train de se faire, le naufrage de la Méduse, on le sait, c'est en 1816, c'est un épisode noir, le capitaine avait abandonné son équipage et donc il s'était fabriqué un radeau de fortune et s'entre-dévorant entre eux avant que quelques survivants soient sauvés. Donc ça l'impressionne dans le rapport à l'histoire, à la peinture d'histoire, ça l'impressionne aussi dans le rapport au fer pictural avec à la fois cette ambition de la composition avec avec cette composition pyramidale et aussi cette façon de décrire avec un certain réalisme les corps blessés et mourants. Puisque...
Mais pas encore de personnage central comme celui qu'évoquait tout à l'heure dans son lancement Bruno Duvic. Dans la formation de la croix, dans ces années de la Restauration, il y a un moment important, c'est le moment file les laines, quand l'opinion européenne se passionne pour l'aventure des Grecs qui se battent pour leur indépendance contre les Turcs. Alors ça va provoquer l'engagement de quelqu'un comme Byron, qu'on va entendre ici au moment décisif où il s'apprête à partir pour la Grèce.
Vous voulez partir pour la Grèce ?
Sinon je n'aurais pas signé votre manifeste.
Mais c'est une guerre sans pitié, une guerre coloniale. D'une insécurité totale.
Qui joue un sou joue sa fortune, Blaquer. C'est-à-dire sa réputation. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir où la vie d'un homme est en sûreté.
Vous risquerez votre vie tous les jours.
Quand mon dernier jour sera arrivé, mon cher, plutôt que de mourir idiot, comme Swift, sur un lit, je préfère me jeter l'épée à la main sur un détachement turc et périr en combattant.
Ici, c'est un téléfilm de Pierre Bureau pour l'ORTF. Bon, c'est pas le genre de Delacroix à se jeter sur les épées. On raconte qu'il avait étalé sur son lit, quand il était à la campagne, des redingotes, des chemises, et il y avait des étiquettes correspondant à chaque niveau de température. Tout était prévu. Aujourd'hui, c'est 16, mais quand il fait 21, il avait un truc à côté qui était prévu.
Oh, c'est un casanier. Il est un peu... c'est vrai que Delacroix, c'est quelqu'un qui est un peu vieux garçon avant son heure, hein, et qu'il voyage peu. C'est vrai qu'il admire beaucoup Byron. Hein, il est fasciné par Byron, qu'il lit. Et la mort de Byron à Missolonghi est quelque chose qui le marque beaucoup. Mais Delacroix n'est pas l'homme de cet engagement-là. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dans cet engagement-là, aussi parce que, il faut le dire, il s'est donné tout entier à sa peinture.
Et en 1824, il fait les massacres de Kyo pour évoquer les difficultés très graves que les Grecs ont avec les Turcs. Et c'est un tableau qui annonce déjà, lui aussi, la liberté guidant le peuple, parce que c'est la diversité du peuple grec qui est montrée.
C'est un tableau qui est important aussi dans son rapport à l'histoire contemporaine. Ça, je crois que c'est très important de se placer aussi dans ce rapport avec la peinture d'histoire et cette idée de jouer avec les événements contemporains. Les massacres de Kyo, donc c'est en avril 1822, il y a, je crois, si je me souviens bien, 25 000 morts. C'est épouvantable. Et c'est vrai que Delacroix, là, représente toute cette diversité du peuple grec et aussi les femmes, les enfants, les hommes plus âgés, les hommes plus riches, mais avec, par contre, dans la composition, une différence fondamentale de la liberté, puisque au centre des massacres de Kyo, il y a un grand vide, qui est le vide de la mort et de la disparition.
À la veille de 1830, il a déjà une clientèle importante, diversifiée. La duchesse de Berry le protège, mais aussi le duc d'Orléans, le futur Louis-Philippe, qui lui passe des commandes. Au fond, il aurait réussi socialement sans la révolution de 1830. Et qu'est-ce qu'il advient de lui au moment où commencent les journées de juillet? Donc, le roi Charles X a publié des ordonnances qui abolissent les libertés, puis se lève une insurrection qui concerne à la fois le Paris populaire et artisan et le Paris des classes moyennes libérales.
Lui, en fait, je crois que ce qui le touche le plus, c'est l'interdiction sur la presse, hein, ces fameuses lois sur la presse qui empêchent la diffusion. Je pense qu'il se sent touché en tant qu'artiste, mais en même temps, il le dit lui-même, hein, il ne prend pas part au combat, et il écrit à son neveu le fait qu'il a vécu dans le Paris insurrectionnel, mais sans vraiment s'impliquer. Il parle de lui en disant « le simple promeneur comme moi » avait la chance d'attraper une balle, ni plus ni moins que les héros improvisés qui marchaient à l'ennemi.
Oui, parce qu'il est quand même sorti, il n'est pas resté tous les jours à sa fenêtre. Et la journée décisive, qui est incertaine le matin, c'est celle du 28 juillet, c'est le premier titre de La Liberté guidant le peuple. Il y a une très bonne technique pour les journalistes dans les musées, et ça consiste à se mettre à la place du tableau et à écouter ce que disent les visiteurs. Petite piqûre de rappel d'abord pour dire que le climat était quand même difficile le 28 juillet.
Évariste, attention! Évariste est touché! Évariste! Ah, Crénon, je crois. Je crois bien que j'ai mon compte.
Il se botte pourquoi d'ailleurs? Je sais même pas pourquoi il se botte. J'ai l'impression que c'est.
Un ras-le-bol, ouais.
Une population qui en a marre. qui en a marre et qui, au bout d'un moment, c'est même plus les soldats qui prennent les armes, c'est le peuple lui-même qui prend les armes et qui va se battre. Et qui est mené, bien sûr, par la liberté.
Là, on a envie de la suivre parce qu'elle est imposante, quoi.
Elle est sauvage, parce que vous voyez, il paraît qu'elle a des poils sous les bras. Et on l'a dit que c'était pas bien, et bah, je sais pas, c'est bien, c'est sauvage, c'est trop belle.
Visiteur du Louvre, parce que la liberté n'est pas au musée de la Croix, qui n'a pas de mur assez grand pour l'accueillir, mais au Louvre, en 2010, les pieds sur terre, France Culture. Alors, la liberté, c'est un personnage du peuple, c'est une femme du peuple, avec du poil sous les bras.
C'est le génie pictural de Delacroix. C'est à la fois un personnage du peuple et elle a effectivement une couleur qui lui a beaucoup été reprochée. Hein. On a dit qu'elle n'était pas lavée, qu'elle a aussi effectivement une pilosité sous les bras. Mais c'est aussi une allégorie. C'est tout le génie de Delacroix, de faire cette femme plus grande que nature qui emporte avec elle et qui tient des victoires grecques, hein, des victoires grecques
oui,
antiques.
Enfin, c'est un être sexué, Dominique de Fonréau. C'est pas Jeanne d'Arc.
C'est un être sexué, mais comme ses victoires étaient sexuées. Elle évoque dans la peinture de Delacroix la Grèce sur les ruines de Missolonghi, qui peint juste avant, en 1826. Hein, et elle a cette puissance de la victoire grecque, avec une poitrine à demi dénudée, une chevelure qui est emportée, et cette monumentalité et ce mouvement incroyable qui lui donne. Et ça, c'est vraiment un de ses grands talents, d'avoir su... dans ce tableau, mélanger l'allégorie et le réalisme. On a pu dire à un moment donné qu'il s'était inspiré d'un événement qui avait été ensuite raconté en 1831 de l'engagement d'une jeune femme. On ne le sait pas vraiment, mais en tous les cas, il vient puiser dans ce vocabulaire antique que la Grèce pour laquelle qu'il a peinte, hein, la libération de la Grèce contemporaine qu'il a peinte quelques années auparavant, lui rappelle. C'est ça qui est intéressant.
C'est-à-dire qu'elle vient d'un autre monde, elle est de ce monde, comme le drapeau tricolore qu'elle tient rappelle l'azur du ciel, mais est fait du rouge sang de nos braves qui sont sur les barricades. Continuons, puisque vous évoquez 1831, c'est la date à laquelle le tableau est présenté au salon, en entendant, lu par un comédien, les réactions qui étaient celles de la presse. Des critiques conservateurs, royalistes, légitimistes, pas toujours très favorables. Et ensuite, vous reconnaîtrez peut-être un homme politique de notre époque.
Cette tête sans caractère, ce corps à demi-nu, ce sein déformé dont les carnations sont flétries, ne répondent certainement ni à la pensée du peintre, ni à l'idée que nous avons de la liberté noble et généreuse qui a triomphé le 28 juillet.
Et sa gorge qui est toute nue et toute sale, c'est pas mal indécent.
Ah, monsieur Delacroix, vous auriez dû débarbouiller votre enfant. Dieu, qu'elle est sale!
Ces hommes du peuple n'avaient pas tous sans doute des profils grecs. Leurs traits étaient grossiers, leurs vêtements troués et salis. Monsieur Delacroix a exagéré tout cela à plaisir.
On a vu tous ces gens-là dans la rue. Et on les retrouve admirablement peints chez monsieur Delacroix.
Les héros de monsieur Delacroix sont faux et laids.
Je ne suis pas un enthousiaste de ce tableau parce que je le trouve assez sournois. Hein.
Ah bon ?
Oui, je trouve que le peuple est représenté d'une drôle de manière. Vous avez un type au premier plan, il est nu, on voit ses poils pubiens. Je dis, qu'est-ce qu'il était en train de faire sur cette barricade pour se trouver dans cet état-là ? Et le seul qui est bien dans le tableau, c'est pas le gosse qui a deux revolvers, parce qu'à l'époque, Victor Hugo n'a pas écrit Gavroche. Hein, c'est donc un enfant dénaturé avec une femme nue, un type à poil devant, et derrière, le bourgeois avec son beau chapeau qui lui est bien en ordre. Je m'en voudrais que l'on enseigne cette idée que l'on est libre parce qu'on est nu.
Vous avez reconnu...
Oui, c'est M. Mélenchon, c'est ça ?
Chez Bourdin. Et auparavant, c'était lu par des comédiens des extraits du salon de 1831, palette d'Alain Jobert. C'est quoi d'ailleurs un salon en 1831 ?
Alors, un salon, c'est le salon annuel, en fait, hein, des peintures. Il s'appelle ainsi parce qu'au départ, il a lieu dans le salon carré du Louvre, ensuite dans différents autres lieux. Et... un des grands éléments qui suscite l'enthousiasme chez les peintres au début de la monarchie de Juillet, donc pour ce salon de 1831, c'est que le roi Louis-Philippe rend ce salon annuel. Et il y a l'espérance du coup qu'ils vont pouvoir montrer leurs œuvres, puisque les salons de la Restauration avaient été très beaux, mais avaient eu lieu qu'à certaines dates, en 1919, en 1822, 1824, 1827.
Plusieurs tableaux ont pour thème la révolution de juillet, oui, au salon de 1831, mais ils sont très différents de la liberté guidant le peuple.
Ils sont fondamentalement différents. Ils s'inscrivent finalement dans quelque chose qui est plus de raconter une histoire, d'une histoire de narration, alors que ici, Delacroix parvient, avec à sa main les techniques de la peinture d'histoire, à écrire effectivement quelque chose qui est de l'ordre de la mythologie, en fait, hein, qui dépasse complètement la description. Même si, et il ne faut pas l'oublier, il y a des éléments naturalistes important. La scène est assez bien posée. Enfin, j'allais dire la scène S-C-E, accent grave N-E, mais la scène, le fleuve aussi, hein, puisque on voit dans l'arrière-plan Notre-Dame avec dans une sorte de brume, avec la brume des tirs. Hein. Et les combats aussi. Hein, le tableau était souvent appelé par Delacroix mon tableau des barricades. Hein. Il disait la barricade ou les barricades. Et c'est vrai qu'on voit une barricade renversée au premier plan avec des gens qui souffrent et qui ont été tués. Donc c'est vrai que il y a des éléments naturalistes et en même temps parce que il a cette grande ambition de s'inscrire dans son temps et de renouveler la peinture d'histoire. De ce point de vue-là, il est bien l'héritier de Gros et de Géricault. Il lui donne un mouvement, un souffle qui s'exprime par la composition.
Oui, absolument mais remarquable. Ça, c'est l'historienne d'art qui veut parler ainsi, Dominique de Fonréau. Mais on ne va pas contourner les objections que fait le citoyen Mélenchon et qui reprennent les questions qui se posaient politiquement en 1831. Qui a fait la révolution? Pour Mélenchon, le bourgeois est trop mis en valeur et le prolétaire est représenté de façon peu digne. Bah oui, il a les ongles sales, les pieds noirs, Mélenchon ne le dit pas. Et puis, littéralement, au premier plan, c'est un sans-culotte. Mais alors, il est représenté comme un sans-culotte, quoi. Il a les jambes nues.
Il a les jambes nues, oui.
Et les poils pubiens qui retiennent. Les poils retiennent beaucoup les observateurs. Beaucoup, oui, oui.
Mais ça, il y aurait une histoire du poil à écrire, mais peut-être pas aujourd'hui. Mais... oui, c'est certain que cette révolution de 1830, c'est une révolution aussi bourgeoise et que la monarchie de Juillet qui naît est aussi inscrite par rapport à cette bourgeoisie dont Delacroix lui-même, hein, qui est plutôt assez conservateur et qui ensuite est d'ailleurs déçu par ce qui peut se passer dans le régime. Ce qu'il faut avoir à l'esprit d'ailleurs, c'est que les critiques qui ont été faites de la liberté guidant le peuple l'ont été d'un point de vue politique aussi, c'est-à-dire que s'y reconnaissaient aussi ceux qui avaient l'impression d'avancer, c'est-à-dire à ce moment-là une forme de bourgeoisie, et de bourgeoisie intellectuelle ou de bourgeoisie commerciale de Paris. C'est une révolution très courte. Elle dure 3 jours, elle met à bas un régime qui était déjà fragile, hein, on le sait, la restauration de Charles X.
Et elle n'aboutit pas à la République,
certes. Elle n'aboutit pas à la République.
Mais à une monarchie constitutionnelle améliorée.
Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Delacroix, c'est qu'il choisit la journée du 28. On aurait pu imaginer, il aurait pu choisir celle du 27 ou du 29. Hein. Il choisit celle du 28 parce que celle du 28, et ça c'est très Delacroix de faire ça, c'est celle où tout peut basculer dans un sens qu'on ne connaît pas encore. On aurait pu aller, semble-t-il dire, peut-être vers la République. Je ne pense pas qu'il le pensait vraiment, mais c'est le moment du basculement possible. Et ça, on retrouve ce qu'il fait très souvent dans ses œuvres, c'est-à-dire choisir avec un sens très aigu le choix de l'instant.
On aurait pu aller vers la République. Elle porte un bonnet phrygien, cette dame nue.
Elle porte un bonnet phrygien et le drapeau.
Et le drapeau tricolore qui est aussi celui de l'Empire et pas seulement celui de la Révolution. Dites-moi, vous dites, Delacroix, il a été déçu par le régime. Enfin, il a trouvé que le régime ne maintenait pas suffisamment l'ordre, que les insurrections qui se sont multipliées, 1832, n'était pas réprimé suffisamment peut-être, que les attentats très nombreux contre le roi ne l'étaient pas suffisamment. Il a été décoré de la Légion d'honneur, on lui a passé des commandes pour l'Assemblée nationale, pour le Sénat.
Absolument. Non, il a été très soutenu. Mais je pense qu'il attendait dans ce rapport artistique un régime des Orléans qui aurait été plus aventureux. Parce que c'est vrai qu'on le sait bien, les Orléans sont depuis toujours des protecteurs des arts.
Enfin, lui, il avait Thiers qui le protégeait, notamment quand Thiers fut président du Conseil en 1840. C'est d'ailleurs en 1840, je voudrais qu'on fasse maintenant le parallèle avec la Marseillaise, que la Marseillaise qui avait ressurgi au moment de 1830, qui avait été mise sous le boisseau, réapparaît pendant que Thiers est président du Conseil et qu'il a une politique étrangère très agressive vis-à-vis de l'Angleterre. Et puis, la Marseillaise va réapparaître plus nettement encore en 1848. Elle n'aura pas l'heure de plaire aux conservateurs de la Deuxième République 1849-1851 et ce ne sera pas l'hymne préféré de Napoléon III qui choisissait plutôt, en partant pour la Syrie. Et c'est seulement en 1879 que la Marseillaise est devenue hymne national. On l'entend dans le climat de la libération et on verra que ça mérite comparaison avec la fortune posthume du tableau de Delacroix.
Vous avez couvert nos drapeaux de gloire. Vous avez couvert la nation de fierté. Et maintenant, nous voyons en vous la grande espérance de la grande armée que nous allons faire avec ce que nous avons déjà et vous en plus. L'hymne national, la Marseillaise. Allons enfants de la patrie.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Dominique de Fonréau, nous parlons de la fortune posthume maintenant du tableau La liberté guidant le peuple qui va réapparaître au jour avec la réouverture du Louvre. Je reste un instant quand même sur la Marseillaise. Le maréchal Pétain ne l'avait pas du tout interdite, simplement il préférait certains couplets à d'autres. Le général de Gaulle fait une place à la liberté guidant le peuple dans un de ses discours quand il fait le tour des villes de France après la libération.
Oui, absolument. Elle illustre un de ses discours. Il a l'impression que c'est la France en marche, hein, cette France qui se libère. Hein. Donc il y a vraiment là une sorte de superposition, non seulement avec la République, ce qui a été fait plus tôt, mais avec la France elle-même.
Alors on peut revenir aux heures et malheurs au 19e siècle de la liberté guidant le peuple, parce qu'on l'a laissée au salon de 1831. Qu'est-ce qu'il advient d'elle après ?
Au salon de 1831, elle est achetée. Par l'État. Elle est achetée par l'État. Donc c'est quand même pas rien. Elle est payée à Delacroix. Elle est achetée. Et donc, les œuvres qui sont achetées par l'État, elle doit aller au musée du Luxembourg, hein, qui est le musée des artistes vivants. Mais ensuite, vous l'évoquiez tout à l'heure, assez vite, le régime a plus de difficultés que ce qu'il avait pu anticiper, notamment les massacres de la rue Transnodin de 1832, un certain nombre d'attentats contre Louis-Philippe. Et du coup, le tableau n'est pas très bienvenu. C'est un tout petit peu ennuyeux quand on a réprimé dans le sang un certain nombre de ces massacres, de montrer de nouveau une scène de Marie-Claire.
Alors on la met à la cave, la liberté.
On la met, comme vous dites, à la cave et on la rend même au peintre. Vous vous rendez compte, c'est quelque chose alors que le tableau a été acquis.
Il l'expédie à la campagne, lui.
Il le garde avec lui et puis il essaye surtout de le ressortir au moment de 1848 et notamment parce que à ce moment-là, il est assez proche du peintre Jean Rond qui dirige notamment le Louvre. Il essaye de la ressortir à ce moment-là et finalement, bon, elle n'est pas exposée autant qu'il aurait voulu. Elle sort quand même, elle est quand même montrée par lui à l'exposition de 1855.
Donc alors, l'exposition universelle de 1855,
sous le Second Empire, sous le Second Empire,
fait une grande place à Delacroix, 55 absolument, tableaux.
Absolument, et il est
dont
avec
celui-ci.
Dont celui-ci, il est avec Ingres, le grand artiste français. Et puis, ensuite, elle est montrée dans une exposition, dans une galerie au tout début des années 1860, avant la mort de Delacroix. Et puis, il faut attendre la mort de Delacroix et surtout l'avènement de la Troisième République, quand l'œuvre rentre avec.
Vous avez peut-être omis la date, pardonnez-moi, madame la conservatrice, de 1863, où il revient, le tableau au musée du Luxembourg.
Alors, il revient effectivement au musée du Luxembourg après la mort de Delacroix.
Mais je vous dis ça parce que c'est étrange, le sort de ce tableau. Il fait signe. 1863, ça va être le début de l'Empire libéral. Quand on ressort le tableau, ça annonce un virage du régime. 1874, au Louvre, ça annonce l'achèvement de l'établissement de la République, l'amendement Vallon 1875, c'est avant la Marseillaise, c'est un signe.
Ah, c'est un signe très important, c'est un signe d'autant plus important qu'à ce moment-là, la Troisième République, qui on le sait a eu du mal à advenir, se cherche des symboles. Et cette liberté, elle est un symbole extraordinaire de la République, même si elle n'avait pas été voulue ainsi.
Et au Louvre, elle retrouve.
Et au Louvre, alors ça c'est quelque chose elle qui m'amuse toujours ça, de dire ça. Ouais. C'est elle retrouve une œuvre que Delacroix n'a pas pu connaître, mais qui est la victoire de Samothrace. Et c'est vrai que la victoire de Samothrace devient elle aussi un autre symbole de la République. Et elle est comme la liberté de Delacroix. Elle est cette femme puissante, majestueuse, qui entraîne donc une victoire grecque au premier plan, au premier chef.
Le rapport de Delacroix et de l'Antique était très bien évoqué dans le catalogue de l'exposition que vous aviez organisée l'an passé au musée de la Croix, Dominique de Fonréau. Le musée de la Croix qui est, j'allais dire une annexe, mais ça va vous vexer, du Louvre. Le Louvre qui rouvre avec la liberté guidant le peuple en 1945. René Huyck qui s'adresse ici aux auditeurs de la radio suisse romande.
Eh bien, aujourd'hui, de Paris et de Paris libéré, j'ai la joie de vous parler pour un instant. Mais c'est pour vous annoncer que le musée du Louvre rouvre ses portes, que les sculptures, que les objets d'art rentrent progressivement et que nous ouvrons une série de salles de peinture où 80 de nos plus grands chefs-d'œuvre viennent d'arriver comme une éclatante avant-garde des autres tableaux qui les suivront.
Le Louvre, où tout vient d'être mis en œuvre pour qu'en cette année 1963, année du centenaire, une exposition prestigieuse groupant les œuvres capitales de l'artiste, soit ouverte au public. Un immense travail, acharné, amoureux, pour que, et vous allez les voir sortir de l'ombre, les personnages de Delacroix, plus vrais que vivants, se retrouvent entre eux, et que nous, nous les rencontrions dans leur fièvre de vie, telle que Delacroix a voulu qu'il soit, lui qui disait, le monde entier ne m'empêchera pas de voir les choses à ma façon.
Et puis 50 ans plus tard, la liberté guidant le peuple fait l'ouverture et elle va y siéger pendant un an du Louvre-Lens et c'est tout un symbole.
Ah oui, c'est un grand symbole et un symbole très fort parce que les Lensois et de façon générale les gens de la région, de cette très belle région du Nord-Pas-de-Calais l'avaient fait leur en fait, avec ses couleurs sang et or qui sont celles du stade de foot de Lens mais qui sont aussi celles de la liberté avec ce rouge très vibrant de la liberté.
Dans une courbe d'émission, il faut toujours perdre à la fin, un petit peu de volume et d'altitude. Je voulais vous faire commenter l'image que Ségolène Royal avait donnée de la liberté guidant le peuple dans un magazine, le Parisien magazine.
C'est une image où effectivement une femme politique de notre temps qui n'est pas dénouée de courage s'implique pose à la manière de la liberté.
Enfin, elle pose habillée de haut en bas.
Mais ça, c'est aussi parce que la photographie, peut-être, si je peux me permettre de dire ainsi, pose des questions que la peinture ne pose pas de la même façon. Donc, par rapport à la nudité, elle n'a plus non plus de bonnet phrygien, mais
elle ne tient plus le drapeau vertical. Drapeau, il est horizontal, il est là pour fendre les intérêts étrangers qui interviennent dans l'économie française.
Il y a une part de courage quand même, ici, une page de courage féminin, il faut le reconnaître.
Mais vous ne trouvez pas qu'il manque un élément? Les hommes?
Il manque les hommes, mais il manque le peuple.
Il manque tous ceux qui ont préparé l'intervention politique de la dame. Au fond, c'est une image réactionnaire.
On peut le dire ainsi, mais peut-être que oui, c'est vrai que c'est une image qui n'a pas le même souffle qu'aurait la liberté elle-même.
Revenons à l'essentiel. Vous avez publié chez Flammarion il y a peu, Eugène Delacroix, des écrits choisis. Je vous remercie beaucoup, Dominique de Fonréau, de votre présence. Demain, nous faisons une émission sur Oscar Wilde, l'exposition à Paris que vous avez déjà vue.
Très belle.
Au Petit Palais, le dandy profond, mais peut-être les deux mots sont-ils synonymes. L'émission était préparée par Éline Canegulesco avec à la réalisation Stéphane Ronxin et à la technique Nicolas Slimani. Et dans un instant, l'émission de Mathieu Vidard sera consacrée à l'intelligence des animaux.